Voilà, le chemin de l'exposé est le suivant. Donc, je voudrais parler de quatre points. D'abord, la nature de la connaissance scientifique par un exemple, la chute des corps. Puis après, je voudrais parler du schéma des théories scientifiques et de la démarche de la recherche. Comment fait-on et comment les choses se passent. Et c'est là où on introduit beaucoup de choses qui sont des hasards, difficilement programmés. Vous avez comparé la recherche et le développement, ce n'est pas la même chose, même s'il y a des rapports entre les deux. Et puis, quatrièmement, comment les découvertes changent complètement notre vision du monde et de l'histoire. En fait, l'histoire, que ce soit l'histoire des sciences ou l'histoire tout court, c'est une reconstitution du passé. Nous ne voyageons pas dans le temps, nous reconstituons le passé avec les connaissances d'aujourd'hui. C'est ça ce que je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre. Alors, on y va donc. La nature de la connaissance scientifique, par exemple, la chute des corps. D'une façon générale, la connaissance scientifique n'est pas exacte, mais approchée. Les théories nous permettent de comprendre approximativement des parcelles de la réalité. Et la recherche consiste principalement en un travail d'élaboration et d'amélioration des théories. Et c'est ce que je prétends faire par un exemple. Et en général, les gens qui ne connaissent pas les sciences pensent que les sciences sont, en particulier les mathématiques, des sciences exactes, les autres moins exactes, mais il y a une idée de rigueur, etc. Effectivement, il y a une idée de rigueur, mais cela ne veut absolument pas dire que la connaissance scientifique soit exacte. C'est une approximation. Comme je vais vous essayer de vous montrer. Alors, je connais, il y a beaucoup de types de chutes, je connais fondamentalement trois types de chutes, la chute de petits corps, danse, telle qu'une pièce de monnaie, ici, je peux faire l'exemple, vous le connaissez bien, pas de problème. La chute de feuilles, que ce soit des feuilles de papier ou des feuilles d'arbre, ça tombe d'une façon entièrement différente. Et puis, il y a la chute des chats, qui sont censés tomber sur les pattes. Alors, ce sont trois choses entièrement différentes. Donc, est-ce qu'il y a une chose qui est la chute de corps? Non, il y a beaucoup d'approximations à des phénomènes extrêmement complexes. Alors, la chute de petit corps. Bon, donc, c'est un petit problème. Bon, je voudrais arriver à savoir comment descend. Les lois de la chute de petit corps ont été découvertes par Galilée, et cela fait partie des découvertes que l'on considère comme fondatrices de la science moderne. Avant Galilée, on croyait que les connaissances se trouvaient dans les livres, en particulier soit dans la physique d'Aristote, soit dans la Bible, et cela ne venait pas à l'esprit des gens que pour trouver la vérité, il fallait regarder et faire des expériences et comprendre des choses. Par exemple, Galilée voulait montrer avec son petit télescope qu'il avait vu les satellites de Jupiter, et il voulait que les gens regardent les satellites de Jupiter. Autre personne ne pouvait regarder dans son télescope. Pourquoi? Tout simplement parce que la connaissance ne se trouvait pas dans les appareils. Si Galilée montrait des satellites avec son télescope, ça voulait dire que Galilée avait mis des satellites dans son télescope. Ce n'était pas là où on cherchait les connaissances. Les connaissances se trouvaient soit dans la physique d'Aristote ou d'autres, soit dans les textes sacrés. Donc il y avait un problème très important et Galilée est vraiment un génie, c'est le premier scientifique au sens moderne, quelqu'un qui trouvait ou qui cherchait, et qui trouvait parfois partiellement et approximativement la vérité dans les choses et non pas dans les textes. Bon, les petits corps, alors il les avait étudiés, en particulier avec des plans inclinés pour voir comment ça tombait, et il avait établi des lois qui faisaient intervenir donc la pesanteur, ça donnait un mouvement uniformément accéléré, des lois sur la vitesse qui étaient proportionnelles au temps de chute, alors que l'espace parcouru était proportionnel au carré du temps de chute, bon, des lois qui étaient approximativement vraies. Pourquoi approximativement vraies? Eh bien, Galilée faisait cela avec des plans inclinés pour ralentir le mouvement et même les instruments de mesure du temps, etc., étaient très, très rudimentaires à l'époque. Et approximativement, cela était vrai. S'il avait fait des expériences avec des appareils beaucoup plus précis, il aurait vu que les choses n'étaient pas comme ça. Ce n'était pas exactement comme ça que les choses se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a la résistance de l'air, des tas de choses qui sont autres que la pesanteur, qui modifient cela. Bien. Si nous faisons tomber des corps d'une grande altitude, bon, cela commence par s'accélérer. À un certain moment, il y a la résistance qui les freine. Et puis, à un certain moment, cela commence à tomber avec une vitesse uniforme. C'est très différent des lois données par Galilée. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Galilée s'était trompé? Non. Il avait donné une bonne description des choses qu'il avait observé et donner les raisons de cela avec la pesanteur, etc., etc. Bien. Nous passons, donc, et nous avons les problèmes qui sont liés à la résistance de l'air. Plus le corps est petit, plus sa densité est petite, c'est-à-dire plus il est grand par rapport à son poids, plus les effets de la résistance de l'air sont importants. Donc, nous passons à la chute de feuilles. La chute de feuilles est extrêmement complexe, parce que si vous regardez la feuille elle-même, il est impossible scientifiquement de comprendre quel est le mouvement d'une feuille qui tombe. Une feuille de papier ou une feuille d'un arbre, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que la feuille met en mouvement l'air environnant. Et la compréhension du phénomène ne peut être obtenue qu'en pensant à la fois au mouvement de la feuille et au mouvement de l'air. Si vous prenez l'un des deux, vous ne pouvez absolument pas comprendre ce qui se passe. Hein? Alors ça fait que c'est un phénomène extrêmement complexe qui fait intervenir l'aérodynamique, fait intervenir des choses extrêmement complexes qui sont objet de recherches actuelles. Donc on ne sait toujours pas exactement comment tombent les feuilles, etc. Ce sont des choses extrêmement compliquées. Ça fait intervenir des phénomènes assez différents tels que le chaos déterministe, etc., parce qu'il y a la turbulence. Et une fois qu'une feuille est tombée, si vous êtes par exemple dans un bois, vous ramassez une feuille par terre, vous pouvez estimer, vous ne savez pas exactement d'où elle vient, donc qu'est-ce qu'elle a fait. Vous ne pouvez pas reconstituer le passé, c'est absolument impossible. Vous pouvez dire cette feuille doit provenir de l'un des arbres autour, ah oui, effectivement. C'est tout. Hein? Donc, ce sont des choses très inexactes et très différentes. Puis après, nous passons à la chute des chats. Alors, on a pensé pendant longtemps, dans l'histoire des sciences, que les animaux vivants avaient un principe vital. Personne n'avait défini ce que cela signifiait, mais c'était quand même un paravent. Pour considérer que cela relevait d'autres lois. Hein? Donc les animaux fonctionnaient par des lois qui étaient différentes des autres. En fait, c'est complètement faux. Les lois de la gravitation universelle, par exemple, elle est universelle, elle opère exactement pareil pour un corps inerte que pour un végétal ou un animal. C'est exactement pareil. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent dans les mouvements d'un corps, d'un animal, en particulier d'un chat? Eh bien, c'est le système nerveux. Donc, si vous prenez des animaux ou des végétaux qui soient relativement petits par rapport à relativement petits et denses, ça tombe à peu près comme les pièces de monnaie, ça ne pose absolument aucun problème. Les difficultés, les différences viennent lorsque ce sont des animaux évolués qui ont un système nerveux évolué. Alors le système nerveux est une chose extrêmement complexe qui permet de construire des modèles mentaux de l'extérieur. Alors les modèles mentaux, ce sont les idées que l'on a, pas nécessairement conscientes, de ce qui est à l'extérieur. Et cela concerne, c'est différent de la chose elle-même, et cela concerne non seulement comment elles sont les choses, mais comment elles évoluent. Et cela peut avoir des modalités extrêmement différentes. Ça peut être transmis par les instants, etc. Donc des choses qui sont transmises par l'hérédité ou bien des connaissances acquises, etc. Il y a des choses extrêmement complexes.
Est-ce que le chat de Schrödinger tombe de la même façon?
Non. Bon, ne mélangeons pas tout. Bon. Comment ça se passe? Eh bien, le chat, d'une façon ou d'une autre, a une connaissance même inconsciente du fait qu'il plate en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tomber à plat avec les des extrémités déployées de façon à offrir le plus possible de résistance à l'air. Et alors cela fait que cela tombe sur ses pattes, mais aussi à une vitesse relativement petite. Et c'est comme ça qu'il ne se fait pas bobo. Bien. Alors comment arrive-t-il là? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le réflexe de redressement. Donc c'est un réflexe, c'est quelque chose qui est inné, qui a été transmis par l'hérédité, dans lequel il fait des mouvements extrêmement complexes, qui ressemble un peu à la prestation d'une danseuse qui est en train de tourner sur ses pointes, et lorsqu'elle ouvre les bras, cela ralentit le mouvement de rotation, lorsqu'elle ferme, cela augmente la vitesse de rotation. Ce type de choses-là, les chats les savent de façon innée, et cela leur permet, dans une certaine mesure, d'arriver là. Pour en arriver là, c'est-à-dire si on lâche un chat à une certaine hauteur, il lui faut un certain espace pour y arriver. Si on les lâche d'ici, les choses sont complètement différentes. Si vous essayez de prendre un chat et de lâcher, c'est extrêmement difficile. Le chat, lorsqu'il comprend qu'il va être lâché, il sort les griffes, il s'accroche, et en fait c'est lui-même qui se détache en imprimant un mouvement de rotation pour arriver avec les pieds sur les sols. Ce sont des choses très différentes, cela dépend de la hauteur de la chute, etc. Donc vous voyez que finalement, est-ce que la pesanteur intervient? Oui, bien sûr. Et où en est-il de toutes les lois données par Galilée? Est-ce qu'elles étaient fausses? Non, elles ne sont pas fausses. Elles donnent une certaine description approchée des phénomènes étudiés par Galilée, etc. Donc, nous en arrivons. Je vais descendre un tout petit. La science est notre connaissance de certaines parcelles de la nature, de leurs interactions et de leur évolution. Contrairement aux apparences, les lois scientifiques sont simples, en tout cas bien plus simples que l'infinie variété de questions ouvertes auxquelles elles s'appliquent et apportent des éléments de réponse, toujours partiels et approchés. C'est le caractère partiel et approché qui suscite de nouveaux sujets de recherche. La recherche a une vitalité propre et les chercheurs vivent une insatisfaction constante qui les pousse à perfectionner, à comprendre. Je dirais même que le chercheur n'est satisfait que dans une insatisfaction continue. Si vous réfléchissez un peu, vous verrez facilement que cette phrase n'est pas contradictoire et qu'elle donne la clé de l'évolution des connaissances. Hein? Donc il faut bien comprendre que les lois de Galilée, par exemple, donnent des réponses approchées à certaines choses, et ces lois-là sont extrêmement simples parce qu'elles nous font comprendre une infinie variété de chutes, de petits corps. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être un petit animal qui n'est pas de modèle manteau, ça peut être infiniment de choses. Et avec très peu de propriétés, nous pouvons prévoir comment ces choses-là se passent. Donc la science est simple, elle introduit de la simplicité dans des choses extrêmement variées et extrêmement complexes. Alors, bon, les éléments fondamentaux des schémas scientifiques sont le caractère partiel des domaines couverts par les théories scientifiques. La théorie de Galilée concerne un certain type de phénomènes et pas d'autres. Le caractère relativement simple des théories, de façon à pouvoir les maîtriser. Hein? Donc c'est une façon d'embrasser avec très peu de matériel des choses extrêmement variées. Le caractère approché de la connaissance scientifique. Et puis la multiplicité des possibilités. Un point éclair, ça c'est un point que je voudrais donner de façon explicite, un point éclair, il n'y a pas et il n'y aura pas de science exacte ni de science du tout. Ce serait un contresens. Avoir une copie conforme de la réalité du monde, ce serait une chose aussi complexe et aussi compliquée que le monde lui-même, c'est pas la peine de l'avoir, ça ne servirait à rien. C'est un contresens. La science, c'est quelque chose de simple qui nous permet, par certaines lois qui sont approchées et qui valent ce qu'elles valent, embrasser une grande variété de possibilités. Alors, cela nous permet. À l'intérieur des théories, les scientifiques manipulent les théories qui ont été élaborées par eux-mêmes comme si c'était des objets. Donc, à l'intérieur des théories, on peut prétendre qu'il y a des phénomènes extrêmement euh, Et on peut imaginer, les scientifiques peuvent, des fois, ils construisent mentalement des mondes idéaux dans lesquels, ce sont des mondes fictifs, dans lesquels les objets fonctionnent exactement comme dites les théories. Cela constitue ce qu'on appelle, ce que j'appelle la construction, la génération spontanée de l'idéalisme platonicien. Donc, le monde est ce qu'il est. Nous avons des connaissances qui sont approchées. Mais ces connaissances-là permettent aux scientifiques, des fois, d'imaginer des mondes fictifs dans lesquels les choses se passent d'une certaine façon. Par exemple, il n'y a pas de monde dans lequel les corps tombent exactement comme le faisaient les lois comme disait Galilée. Plus on a d'appareils de mesure exacts, plus on voit que les choses ne sont pas exactement comme ça. Hein. Mais les scientifiques imaginent parfois qu'il y a des mondes fictifs et idéaux dans lesquels les choses se comportent de cette façon-là. Alors, je descends un peu. Alors, on va passer ici. Alors, voilà, nous passons au mode de construction de connaissances. Cette figure correspond au nombre de publications d'une nouvelle théorie ou d'une nouvelle méthode. Alors, ça se passe de la façon suivante. Il y a une première partie ici, dans laquelle il y a des petites bosses, petit A, petit B, petit C. C'est ce qu'on appelle les avant-gardes. Puis après, il y a les articles fondateurs, c'est le grand A, c'est là où vraiment on commence à élaborer la théorie. Puis il y a la montée en puissance, c'est la partie qui va de A à B, dans laquelle il y a des articles très précis, qui donnent le corps, pour ainsi dire, de la théorie ou de la méthode. Et puis il y a une partie, la partie BCD, qui est la période d'application exhaustive de la théorie pour l'utiliser pour tout ce qui peut être utile pour différentes choses. Et puis après, la théorie disparaît en tant que telle, c'est le point D, dans lequel elle se fond dans le panorama de connaissances générales. Elle disparaît en tant que théorie nouvelle, elle est intégrée dans les connaissances générales. Alors voilà comment les choses se passent. La partie correspondante aux avant-gardes, petit A, petit B, petit C, et puis les premiers articles fondateurs, les A, c'est une dominante, c'est une partie à dominante qualitative. Hein. Vous voyez qu'il y a peu d'articles par an, ça c'est le temps, donc il y a le nombre d'articles, le nombre de publications par an, il y en a très peu, mais il y a des idées nouvelles. Puis après, il y a la partie de droite, par contre, dans laquelle il y a beaucoup d'articles, et finalement, il y a dominante quantitative. Alors on peut estimer que le poids général de deux choses, donc il y a les idées novatrices sont dans la première partie, les résultats effectifs sont dans la deuxième, mais voilà comment les choses se passent. Il y a les idées dans la première, il y a les conséquences dans la deuxième. Alors, bon, ben, je ne sais pas, on peut descendre un peu et passer là. Pour comprendre un peu bien comment les choses se passent, il faut faire un parallèle avec une découverte qui ne soit pas une découverte scientifique, par exemple la découverte de l'Amérique. Alors les avant-gardes sont les voyages des Vikings qui avaient un but complètement différent de faire des découvertes. Il y avait les Vikings construisaient des colonies et en particulier les colonies venaient en particulier vers le sud, mais il y avait Éric le Rouge qui avait été banni des territoires scandinaves suite à un meurtre. Alors il est parti vers le nord, ou plus exactement directement vers l'ouest, et alors il a créé des petites colonies, dont une, c'est du Vinland, qui selon toute probabilité se trouve en terre neuve. Alors, cette colonie a duré 10 ans. Elle a disparu parce qu'on était déjà allé trop loin dans une région qui était trop hostile au point de vue environnement. Elle n'a tenu que 10 ans et elle a disparu de lui-même. À cette époque, donc, il a été en Amérique. À cette époque, il était impossible d'imaginer qu'il y avait quelque chose à découvrir avec cela. Plus tard, il y a eu la période de Christophe Colomb, donc les choses étaient complètement différentes. Il avait l'intention de faire du commerce avec les Andes, et on avait fait des calculs erronés, d'après lesquels, donc on savait déjà que la Terre était ronde, et que la distance, on prétendait que la distance pour aller aux Andes était plus courte en naviguant vers l'ouest que vers l'est. C'est ce qu'il a fait, et alors il a trouvé l'Amérique. Alors il n'a jamais su que c'était l'Amérique, il croyait que c'était les Andes, et c'est Amerigo Vespucci, beaucoup plus tard, qui a compris que cela était un continent nouveau, et il a donné son nom, enfin, on a donné plus tard le nom de l'Amérique à cette terre-là. Alors, vous voyez que la structure des connaissances, la structure des découvertes est en général celle-là. Une fois que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, après on a vu qu'il y avait de l'or, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que le commerce lui-même, avec le commerce des épices, avec les Andes. Donc cela a déchaîné une grande quantité de voyages de conquistadors qui étaient des gens extrêmement avides d'argent et de choses qui n'avaient rien à voir avec la découverte de l'Amérique. Et c'est exactement comme ça, vous pouvez regarder la figure précédente, c'est ça. Donc le point A, les articles fondateurs, ça c'est Christophe Colomb, puis après il est monté en puissance, ce sont les premiers conquistadors, et puis après l'application exhaustive, c'est l'exploitation de l'or, etc. Et puis après cela disparaît, cela est intégré dans le monde. Voilà comment les choses se passent en général. Les théories scientifiques fonctionnent exactement de la même façon. En général, on cherche quelque chose, on en trouve une autre, mais il faut s'interroger, il faut avancer, pour pouvoir comprendre quelque chose à l'évolution des connaissances. La recherche consiste en une quête de cohérence causale avec d'autres connaissances. Elle n'est nullement une expérimentation pour en reporter les résultats. Elle comporte une des facettes où l'on imagine une structure causale avec d'autres phénomènes, ce qui dit l'expérimentation. Il y a un va-et-vient entre une imagination ouverte, parfois débridée, et une observation patiente perspicace. Voici une citation de François Jacob, biologiste japonais, sur la recherche elle-même. Alors il raconte à l'époque où il avait commencé à faire les recherches. Contrairement à ce que j'avais pu croire, la démarche scientifique ne consiste pas simplement à observer, à accumuler des données expérimentales et à enterrer théorie. Elle commençait par l'invention d'un monde possible ou d'un fragment d'un monde possible, pour la confronter par l'expérimentation au monde extérieur. C'est ce va-et-vient sans fin entre l'imagination et l'expérience qui permettait de se former une représentation toujours plus fine de ce qu'on appelle la réalité. Voilà. La recherche, ce n'est pas une observation, c'est imaginer qu'il y a des relations causales. Comprendre les relations entre les phénomènes et confronter ce qu'on a imaginé avec la réalité. Alors, ça fait la différence, ça fait une différence énorme entre ce qu'est la recherche et ce qu'est le développement. Alors, cela peut se voir avec les grands programmes de recherche qui nécessitent des investissements très importants. Alors, ça concerne par exemple le télescope de la CIA au Chili, toutes les installations du CERN, etc., ces choses-là. Alors les États-Unis, donc c'est la première puissance économique du monde, elle peut se permettre de faire ce type de programme et de développer ce type de programme au niveau national. Il y en a trois qui ont une grande importance, qui sont le projet Manhattan, de construction de la bombe atomique, la première bombe atomique, le projet Apollo pour mettre un homme sur la Lune, et le projet sur le cancer du président Nixon. Alors il se trouve que les deux premiers étaient des projets de développement, le troisième était un projet de recherche. Alors, et il a joué. Alors la chose est la suivante. Donc vous avez le projet Manhattan, il était issu de la lettre bien connu d'Einstein au président Roosevelt, faisant état de la possibilité réelle de construire des armes atomiques et l'utilité de les faire avant que l'Allemagne nazie ne les fasse. Bon, alors cela a marché, cela a produit des bombes atomiques, alors que l'Allemagne nazie n'avait pas de véritable programme de production de ces armes-là. La guerre est finie en Europe et la bombe atomique a été utilisée, a été retombée pour des choses qui n'étaient pas, c'est pourquoi elle était construite. Elle a été utilisée contre le Japon et puis après c'était un joker fondamental de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et cela a réussi en tant que programme. Après c'était le programme Apollo. C'était à peu près de la même nature. C'était des choses que l'on savait qui pouvaient être faites. Il s'agissait de développer certaines techniques de façon à développer des lanceurs beaucoup plus puissants de ce qu'on avait jusqu'à ce moment-là et de la possibilité de mettre un homme sur la Lune et de pouvoir les récupérer après. Donc c'est des techniques d'alunissage et de récupération. Et on savait exactement ce qu'il fallait faire, seulement il fallait les développer. Alors cela marchait aussi, il n'y avait pas de problème. Et cela a conduit effectivement à la mise à la mise de la Lune d'un homme avant les soviétiques, qui était le but de l'opération. Il y en a une autre qui est assez plus connue, que le président Nixon a dû penser qu'il n'avait pas de 203 et a signé le 23 décembre 1971 le National Cancer Act de 1971, assorti les moyens du budget de rêve, dont l'objectif était affiché de vaincre le cancer pour le bicentenaire de l'indépendance américaine en 1976. Il a donc estimé que vaincre le cancer était une affaire de 5 ans. La dure réalité s'est vite imposée au volontarisme de Nixon et de ses conseillers. Des sommes immenses ont été gaspillées avec un rendement territoire en matière d'avancée sur le cancer. L'euphorie initiale est vite retombée et les engagements ont été discrètement abandonnés à l'approche d'une échéance gênante. Pourquoi Manhattan et Apollo n'ont pas réussi Pourquoi Manhattan et Apollo ont réussi et non pas le projet cancer? C'était un projet de recherche. Personne ne savait à l'époque, et c'est toujours vrai, qu'est-ce que c'est exactement un cancer, comment il se développe, etc. Donc il y avait une impossibilité réelle, un obstacle épistémologique qui ne pouvait pas être surmonté ni avec de l'argent, ni avec du volontarisme. C'était complètement différent des autres projets. Et il a donc échoué. Je crois que c'est un très bon exemple pour comprendre la différence qu'il y a entre le développement et la mise en œuvre, soit économique, soit pour appliquer à d'autres choses, tout ce que vous voulez, et la recherche elle-même, qui est une chose extrêmement hasardeuse. Lorsqu'on ne sait pas, il faut se rendre à la réalité. Et le volontarisme, et même souvent l'argent, ne sert absolument à rien. Alors, je vais passer à un dernier point, qui est comment la découverte change notre vision du monde et l'évolution dialectique. Alors, dans mon livre, je développe beaucoup des questions de dialectique, donc le matérialisme dialectique en général, et comment il s'imbrique dans les sciences, etc. Alors, cela concerne en particulier ce que je vais vous montrer, c'est la chose assez curieuse concernant le développement de la photographie. Alors, la photographie, elle a commencé avec Niépce, plus ou moins en 1822 ou 23. C'était une procédure qui utilisait des réactions chimiques qui étaient extrêmement lentes et cela nécessitait une exposition de quelques 8 heures. Donc on ne pouvait photographier. Alors Niépce avait fait une photographie de la cour de sa maison. C'est quelque chose dans lequel on voit de façon très vague les murs, etc. Bon, c'est vraiment pas intéressant. Un peu plus tard, il y a eu la découverte de Daguerre, de Daguerre. Daguerre avait mis au point une autre procédure chimique qui permettait de faire des photographies avec une exposition de seulement 10 ou 20 minutes. Et cela s'appelait le daguerréotype. Alors voilà, on est loin de ce qu'on trouve de nos jours dans les rayons photo d'un grand magasin. En fait, qu'est-ce que c'est que la photographie? Un appareil photo est sans doute pour vous un moyen technique de fixer des images prises sur le vif. Une machine qui sera fixée pour la postérité, la réalité d'un instant. À la différence d'un dessin ou d'un tableau, qui peut avoir une valeur évocatrice et artistique certaine, mais qui est du moins partiellement produit de l'imagination de l'artiste, la photo porte témoignage de la réalité telle qu'elle est. C'est un document historique indéniable. Alors, oui, mais cela est notre vision des hommes d'hommes de la fin du XXe siècle ou du XXIe siècle. Du temps de Daguerre, c'est exactement le contraire. Alors, quelques années après la découverte de Daguerre, il y a eu la révolution de 1848. Alors voilà, il y a des daguerréotypes de la révolution de 1848. Voilà, ça, c'est la barricade de la rue Saint-Paul à Paris. C'était un daguerréotype pris par Thibault le 25 juin 1848. Il se trouve au musée d'Orsay à Paris. Le temps d'exposition de 10 ou de 15 minutes supprime automatiquement les figures en mouvement. Donc vous regardez, on ne voit absolument pas de personnes. Alors, on peut imaginer qu'elle était en mouvement. Mais même si on leur avait demandé de se figer, c'est-à-dire de poser pour faire une photographie, et ce qui est invraisemblable parce qu'il y avait des troupes royales qui étaient en train de tirer, donc c'était impossible, mais même s'il l'aurait fait, cela aurait été une photo complètement faussée, puisque cela manquait du réalisme du combat. Donc voilà. Alors, donc, dans ce temps-là, si vous voulez avoir un témoignage de ce qui s'est passé réellement, alors il faut utiliser précisément le contraire, c'est-à-dire un tableau. Alors voilà un tableau d'Horace Vernet, la barricade de la rue Soufflot à Paris en 1848, le même jour, ce n'est pas le même endroit, mais c'est le même jour, le 25 juin 1848. Alors, voilà. Alors, nous voyons que le fait que la vision que nous avons actuellement, au début du XXIe siècle, de la photographie, c'est quelque chose qui produit un témoignage de la réalité telle qu'elle est. En ce temps-là, en 1848, c'était le contraire. C'était le tableau qui donnait une image de la réalité telle qu'elle était. Donc, nous, il y a eu un phénomène. C'est un phénomène de passage du quantitatif au qualitatif, l'un des principes de la dialectique, parce qu'au fur et à mesure que le temps d'exposition a diminué, il a été possible de saisir de plus en plus les choses sur les vifs. Et donc, de nos jours, la photographie est quelque chose qui porte témoignage de la réalité. Alors, donc, le renversement. Tableau photo, en ce qui concerne le rôle des moyens sur le vif, est un phénomène qui s'est produit graduellement au cours du XXe siècle à la faveur de la diminution du temps d'exposition et l'apparition de la photo instantanée. Encore un mot avant de finir ce chapitre. Il y a une erreur volontaire dans ce que je viens de vous dire. Le terme révolution de 1848 et les idées emblématiques qui s'y rattachent, on parle à 1848, je ne sais pas où, mais enfin, en général, on pense à la proclamation de la Deuxième République, l'abolition définitive de l'esclavage, le plantant des peuples, etc. Alors ça, c'est un raccourci. Il y a eu deux révolutions, une en février et une autre en juin. La République a été programmée à la suite de la révolution de février. Hein? Mais le contenu social de la révolution n'était pas fixé. Et il y a eu une deuxième révolution en juin, dont le but était de donner un contenu social à la République. Alors, lorsque je vous ai dit que en 1840, lors des photos, les révolutionnaires étaient soumis au fait des forces royales, c'est faux. Ces forces-là étaient républicaines, puisque ce sont des photographies ou des tableaux de la révolution de juin. Alors voilà, ça c'est un petit exemple qui montre comment, avec les connaissances actuelles, nous reconstruisons le passé. Nous n'avons pas une connaissance exacte des choses telles qu'elles se sont passées. nous reconstruisons le passé avec nos pensées. Voilà, ça c'est une des lois de la dialectique, le passage du quantitatif au qualitatif, et la vision que nous avons de l'histoire, ce sont des choses que nous imaginons avec nos pensées actuelles. Voilà, c'est l'introduction que je voulais faire pour le moment. Je vais intervenir, sinon j'ai beaucoup d'autres choses à raconter, on peut faire ce que vous voulez. Je m'excuse, je n'étais absolument pas en forme, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne suis pas en forme.
Parler éventuellement d'un. Comment dire c'est peut-être une question simpliste. Faites-vous un rapport entre la recherche en sciences, entre guillemets, dures et la recherche en sciences humaines, par exemple?
Oui, pour moi, la science, il n'y en a qu'une, c'est la connaissance du monde. Alors, les mathématiques sont les sciences, contrairement à ce qu'on pense, les plus simples. Qu'est-ce que cela veut dire? Elles sont simples au sens où j'ai parlé de la simplicité. C'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont extrêmement, extrêmement complètes et concrètes et qui sont manipulables entre elles. Alors, je vous donne un exemple encore plus dur que les mathématiques, c'est la logique. La logique, c'est avant les mathématiques. En un certain sens, bon, les mathématiques pures, au sens pur et dur, c'est de la logique. Comment cela fonctionne? Je vous donne un exemple. Il y a les syllogismes, la fameuse, là, les hommes sont mortels, Socrate est homme et d'homme. Donc, Socrate est mortel. Alors, essayons de décortiquer cela pour savoir exactement qu'est-ce que cela veut dire et quel est le degré de vérité ou de fausseté de cette affirmation. Alors, les hommes sont mortels. Oui, c'est ce qu'on dit. Apparemment, c'est quelque chose que je vois plein de gens qui sont vivants, hein, mais enfin, bon, on dit qu'ils sont. C'est pas très clair. Bon. Alors, Socrate est homme, oui, ça relève de l'histoire, oui, Socrate est homme, là, il n'y a pas de problème. Donc, Socrate est mortel. Alors, bon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement, les hommes sont mortels? Les hommes sont mortels signifie, très précisément, les hommes ont toujours des vies qui sont plus courtes que 150 ans. C'est ce que cela veut dire. Alors, en un certain sens, c'est une chose qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise et beaucoup plus expérimentale que les hommes sont morts. Alors, qu'on ne me dit pas, qu'on ne me dise pas que les hommes sont morts parce qu'on voit que tous les gens mortent, que tous les gens meurent. Non, en ce moment, il y a 6 milliards d'individus vivants. Qu'est-ce qui prouve, au point de vue logique, qu'ils vont mourir? Non. Alors, la seule chose qu'on sait, et c'est en fait expérimental, c'est que les hommes ne vivent pas plus de 150 ans. Donc, ça, c'est une chose qui est parfaitement concrète et. Alors, le résultat de cette affaire-là, c'est donc que Socrate n'a pas vécu plus de 150 ans. Voilà. Donc, d'une part, c'est une chose beaucoup plus précise que Socrate est mortel, et d'autre part, beaucoup plus concrète et beaucoup plus en relation avec la réalité. Alors, si vous analysez cette phrase-là, est-ce que c'est ça la logique? Non. La logique, et dans cette phrase-là, il y a vraiment très peu, très peu, très peu de logique. Hein? La logique est cachée dans le verbe être, hein? Parce qu'on dit Socrate est étonne. Alors, je répète la phrase, il y a deux fois le verbe être qui joue des rôles entièrement différents. Donc, Socrate est étonne, c'est le verbe être. Bon. Les hommes sont mortels, c'est le verbe être. Il a un caractère complètement différent. Dans cette phrase-là, vous pouvez changer le deuxième verbe, les hommes sont mortels, par d'autres, un autre attribut quelconque. Par exemple, vous pouvez dire, les hommes respirent l'air de l'atmosphère. Et alors, vous en déduisez que Socrate respire l'air de l'atmosphère. Donc, c'est une chose qui n'est pas très importante. Ce verbe être là, c'est pas ça le verbe être, mais ça aurait pu être autre chose. Ce n'est pas important. Par contre, la première fois qu'on utilise le verbe être, on dit Socrate est homme, alors ça c'est de la logique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons des idées qui sont aussi expérimentales, viennent de nos sens. Nous avons à peu près ce qui est un ensemble. Et c'est un ensemble à des éléments. Et ça, Socrate est homme, cela signifie de façon plus précise, Socrate est un élément de l'ensemble des hommes. C'est ce que cela veut dire. Et là, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas changer dans cette phrase-là. Socrate est homme parce que Socrate respire ou toute autre chose. Ça ne va pas du tout. Alors, la logique est infime. La logique dans cette phrase-là est contenue dans cette est homme, hein? Ce qui signifie de façon très précise, j'affirme que Socrate est un élément de l'ensemble de tous les hommes. Et j'ai une idée de ce que c'est que tous les hommes, ce qui est faux, tout cela, ce sont des choses qui sont parfaitement approchées. Je ne connais pas tous les hommes, je n'ai pas une idée exacte de ce qu'est l'ensemble des hommes, mais j'ai une idée vague de ce que c'est les hommes, et Socrate est un élément de cet ensemble. C'est ça la logique. C'est infime ce qu'il y a là. Tout ce qui est important est autour. Hein? Tout ce qui est important, c'est que les hommes ne vivent pas plus de 150 ans, c'est expérimental. Le résultat, c'est que Socrate n'a pas vécu plus de 150 ans. Donc, Socrate, si l'on connaît sa date de naissance, bon, il n'est pas vivant en ce moment, c'est une conséquence qui ne se déduit pas du fait qu'il soit mortel. Hein? Soit mortel, ça veut dire qu'il va arriver à mourir. Hein? Mais nous ne pouvons, du fait que Socrate soit mortel et qu'il soit né au 4e siècle avant Jésus-Christ, on ne déduit pas de cela qu'il soit mort à ce moment. Hein? Par contre, dire les hommes ne vivent pas plus de 150 ans, donc Socrate n'a pas vécu plus de 150 ans, vous donne beaucoup plus, vous donne le fait qu'il est mort. Hein? Donc vous voyez que la logique finalement c'est très peu. Alors les mathématiques c'est comme ça. Les mathématiques, plus on va dans le sens de la précision. Ce sont des jeux, comme les jeux de sudoku, des choses comme ça, dans lesquelles il y a des règles, et vous les manipulez. Et ça c'est exact, c'est vrai. Mais ce sont des choses que nous faisons parce que nous définissons des règles, et nous les manipulons. Ça c'est très peu, c'est comme le verbe être dans Socrate et homme. Tout ce qui est important c'est autour, ce sont les relations de cela avec le reste, avec la nature, exactement comme je vous ai montré avec cet exemple-là. Donc, est-ce que les mathématiques, toutes les mathématiques sont exactes? Oui et non, il ne faut pas être sectaire. Bon, mon idée est que non, que les mathématiques ne sont pas exactes. Mais bon, si on me pose un peu la main... on peut très facilement arriver à me faire dire que oui, que les mathématiques sont exactes. Je crois qu'il faut être un peu plus nuancé. Les mathématiques, au sens pur et dur, de manipulation des règles exactes, elles sont exactes. Mais cela ne présente aucun intérêt, même pour les mathématiciens. Les mathématiciens, je ne sais pas si vous en connaissez, ce sont des gens qui sont très attachés à des choses qu'ils appellent souvent l'élégance d'une démonstration ou l'intérêt d'une démonstration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'élégance, c'est relève un peu de la prestidigitation. Hein? C'est comme arriver à sortir un résultat mathématique là où on ne s'y attendait pas. Les mathématiciens aiment beaucoup cela. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la pratique de la recherche en mathématiques, ils mettent énormément d'esthétique, hein? Des choses qui sont l'élégance, etc. Si on parle de l'intérêt d'une chose, de l'intérêt d'un résultat, c'est l'intérêt, si on est mathématicien, les mathématiciens purs, ils parlent beaucoup de l'intérêt, ça c'est intéressant, ça par contre c'est trivial. Au point de vue logique, il n'y a absolument aucune différence entre un résultat extrêmement intéressant et un résultat trivial. La logique y va, c'est vrai ou faux, pas, c'est terminé. C'est pas ça ce que font les mathématiciens. Les mathématiciens sont en général des gens extrêmement intelligents, qui travaillent énormément pour obtenir des choses qu'ils appellent intéressantes. Donc ils génèrent de l'intérêt. Les mathématiques, la pratique de la recherche mathématique, est une création de l'intérêt. Intérêt pourquoi ? Ça peut être certaines mesures, ça peut être intérêt économique, ça peut être intérêt pour les applications, ça peut être, la plupart des fois, pour les mathématiciens purs, c'est tout simplement intérêt parce que cela chatouille l'intérêt de la personne pour arriver à savoir, c'est la curiosité, arriver à savoir des choses. Donc vous voyez que ce sont les vraies choses qui jouent dans la recherche en mathématiques, ne sont pas la logique, ce sont tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est mon point de vue. Vous avez le droit d'avoir un autre point de vue qui sera certainement très, très intéressant de comparer et de confronter. Les mathématiciens en particulier sont très attachés à ce que j'évoquais.
Micro.
Les mathématiciens sont très attachés à ce que j'évoquais de la compréhension des choses. Alors vous savez qu'il y a des problèmes très, pas nécessairement très difficiles, mais très complexes, qui nécessitent l'examen d'une quantité énorme astronomique de cas. Alors on ne peut pas les faire, alors on les donne souvent à un ordinateur pour qu'il vérifie, qu'il fasse de la vérification bête et méchante. Alors il y a beaucoup de mathématiciens qui n'acceptent pas les résultats obtenus de cette façon-là. Non pas parce qu'ils croient que c'est faux, mais parce qu'ils ne comprennent pas les raisons qui conduisent à cela. Cela concerne en particulier les problèmes de quatre corps, des choses de ce type-là. Il y a des démonstrations de ce type-là qui ne sont pas acceptées par la plupart des mathématiciens parce que ce qu'on veut, c'est comprendre le pourquoi des choses. C'est ce que j'essayais de vous expliquer avec la phrase de Jacob en particulier. Il y a un tissu de relations de causalité et de compréhension. Et c'est ça ce que les mathématiciens veulent. Je me prends une idée sur les statistiques. Les statistiques, on dit, c'est un peu méchant ce que je vais dire. J'ai jamais la contradiction, donc ne vous sentez pas agressé si j'ai dit une chose agressive. Il y a quelqu'un qui dit que les statistiques sont comme les maillots de bain. Ce qu'ils montrent, c'est extrêmement intéressant, mais ce qu'ils cachent, c'est fondamental. Bon, je crois que c'est comme ça. Mais ce n'est pas les statistiques en tant que telles. Le travail des mathématiciens qui font des statistiques est un travail honnête. C'est dans l'imbrication de cela et les applications et l'utilisation qu'on en fait qu'il y a les problèmes. Lorsqu'on fait des calculs de probabilité ou des statistiques de ces choses-là, il y a une chose préalable sous des formes diverses. Je vais au plus simple, analogue à Socrate, Tom, etc. Le plus simple. Vous avez beaucoup de cas qui sont également possibles. Il faut vérifier qu'effectivement ils sont également possibles et qu'ils sont indépendants. Alors c'est là où se cachent les problèmes. Je vous donne un exemple. C'est la catastrophe du Titanic. Le Titanic, avant le Titanic, on avait commencé à faire des bateaux qui avaient des compartiments étanches. Donc, s'il y avait une voie d'eau, cela envahissait un compartiment, mais pas le reste. Donc, le bateau ne coulait pas. Alors, s'il y avait une deuxième cause qui produisait une deuxième voie d'eau dans un autre compartiment, cela faisait deux, etc. Bon. Et donc, on construisait des bateaux, et plus on mettait de compartiments, plus on considérait qu'il était sûr. Bon, effectivement, parce qu'il fallait de plus en plus d'accidents pour qu'il coule. Effectivement, cela a sauvé beaucoup de vies, c'est une chose qui était parfaitement vraie. Alors, quand on a construit le Titanic, il avait, je ne sais pas combien, quelque chose comme 12, je ne sais pas combien de compartiments, peu importe, et il était absolument extraordinaire parce qu'il pouvait, il flottait, avec quatre compartiments inondés. Donc il fallait s'attaquer quatre fois à la coque du bateau pour faire quatre voies d'eau pour qu'il coule. Alors, c'était invraisemblable. Alors la conséquence de cela, c'est qu'on a supprimé les canaux de sauvetage, etc., parce que ça faisait mal. Il y avait des voyageurs qui n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle qu'ils pouvaient avoir un accident. Donc on a retiré les canaux de sauvetage, une grande quantité, et il n'y avait pas assez pour tout le monde. Premier point. Et puis après, on a choisi des routes pour aller en Amérique très au nord. hein, là où il y avait un danger, de rencontrer des icebergs. Ça ne faisait rien, parce que si on rencontre un iceberg, pourquoi ça va faire une voie d'eau et on a encore la capacité pour avoir trois. Il faudrait encore trois voies d'eau supplémentaires. Alors, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Il est arrivé le Titanic, et il y a quelqu'un qui est un vigile qui a vu qu'il allait vers un iceberg. S'il l'avait heurté frontalement, rien ne se serait passé, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un accident, s'il aurait inondé le premier compartiment, il aurait flotté, pas de problème. Ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Donc il a vu l'iceberg, il dit il faut tourner de bord. Alors, il a tourné vers la gauche, vers le bâbord, pardon, et cela a presque évité l'iceberg. L'iceberg avait une sorte de langue, quelque chose, qui a fendu la coque. Il a commencé tout près de la poche, et il a fait une voie d'eau, premier compartiment, il a inondé, pas immédiatement, mais il a fait une voie d'eau dans le premier compartiment, ensuite dans le deuxième, exactement comme un couteau, comme ça, enfin le couteau était là, et c'était le bateau qui venait comme ça, et qui s'est fait s'essuyer. 1, 2, 3, 4, 5, paf, et alors il a pris. Alors, comment vous mettez, quel est le rapport entre cela et le raisonnement, c'est-à-dire que l'on fait un raisonnement préalable, qui est un raisonnement correct, qu'il pouvait supporter 4, mais pas 5, accidents. Eh bien, parce que ce qui s'est produit, c'est un phénomène dans lequel ces 5 phénomènes qui se sont produits, c'est-à-dire l'ouverture des 5 compartiments, n'était pas indépendant, il était parfaitement lié. Donc finalement, il y a une seule cause qui a fendu les 5. Alors ça, c'était quelque chose qui n'était pas comprise dans l'idée naïve que plus on met de compartiments, plus il est sûr. Hein? Parce que s'il y a un phénomène, comme celui qui s'est produit, dans lequel il s'aiguille absolument tous les compartiments, ça ne sert absolument à rien. Hein? Donc voilà les types de choses. À Fukushima, c'était des choses tout à fait analogues. Donc il y avait tous les dispositifs de sécurité, les systèmes de pompage et tout ce qu'on peut imaginer, mais, enfin, les circuits de sécurité, etc. Donc s'il y avait une panne, on pouvait continuer avec les circuits suppléants, etc., etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tsunami, là, la voie d'inondation de l'eau, qui a inondé les circuits les circuits suppléants. Donc, c'est exactement comme le Titanic. C'est quelque chose qui a sécuyé toute possibilité d'utiliser les circuits dont on disposait. C'est quelque chose qui a détruit automatiquement les différentes choses. Il faut bien comprendre que lorsque vous mettez des dispositifs suppléants, il faut qu'il arrive à fonctionner. Donc si la cause est avant, en amont, elle détruit elle-même les dispositifs suppléants, ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé en Titanic. Au Titanic, c'est ce qui s'est passé à Fukushima. Donc c'est là où les choses se cachent. Hein. C'est... Bon... Alors, la plupart des fois, dans l'utilisation de ce type de choses-là, c'est comme ça. Le problème est extrêmement sérieux, parce que vous ne pouvez pas... On peut penser, justement, le métier du calcul de probabilité de ces choses-là, c'est de manipuler des choses qu'on ne connaît pas. Or, si on ne les connaît pas, vous ne savez pas si elles sont indépendantes ou non. Donc, vous ne savez pas si les hypothèses qui sont nécessaires pour manipuler la théorie de façon cohérente, sont vraies ou non. Donc vous êtes vendu. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Donc le problème, ce n'est pas le calcul de probabilité, c'est l'utilisation qu'on en fait. Hein? Les gens croient, ça relève de la magie. Les gens croient qu'en utilisant le calcul de probabilité, on peut manipuler les choses qu'on ne connaît pas. Eh bien, si on ne les connaît pas, on est fichu. Parce que vous ne savez pas si elles sont indépendantes ou non, et vous ne savez pas si les calculs de probabilité, si les choses données par les calculs de probabilité sont valables ou non. Voilà. Voilà ce que je pense de cette question. Oui, il y a deux personnes là qui m'ont...
S'il vous plaît. En rapport toujours avec la méthode scientifique, ici là,
oui.
En rapport avec la méthode scientifique, vous avez dit tout à l'heure que les mathématiciens aimaient bien faire des effets de manche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le principe du rasoir d'Occam? Si vous pouvez me répondre là-dessus.
Je ne suis pas un fan du rasoir d'Occam. Je crois que le problème, il faut les approfondir. Donc le rasoir d'Occam, en principe, c'est qu'il ne faut pas utiliser plus que ce qui est vraiment nécessaire pour donner une explication à un phénomène. Oui, bien sûr, ça va de soi. Mais il faut, à mon avis, il ne faut pas l'utiliser comme une loi complètement générale qui interdise de faire autre chose. Le propre de la recherche, c'est de comprendre tous les tenants et les aboutissants des choses. Ça peut aller contre les rasoirs d'Occam. Pour moi, les rasoirs d'Occam, oui, a priori, oui. Mais il ne faut pas aller jusqu'au bout de recherche, c'est mon avis. Hein. Il y a des fois où il y a des explications qui sont beaucoup plus complexes que les rasoirs d'Occam. Je vais vous dire une chose qui peut paraître politiquement incorrecte, bon, pourquoi pas. Hein. Souvent, si on veut des explications très simples, on peut trouver des explications très simples à tout, qui signifie tout simplement qu'on ne veut pas comprendre. Hein. Finalement, tout compte fait. Si on croit en Dieu, pourquoi les choses se passent? C'est parce que Dieu le veut. Et ça explique tout. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, c'est une explication extrêmement simple qui donne tout. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec les sciences, bien entendu, mais c'est une explication que certains acceptent. Bon, voilà, c'est vraiment trop simple. Bon. C'est trop simple et trop parfait. Bon. Moi, je crois pas en Dieu. Bien. Ça répond à votre question ou non? Ça répond à votre question? Vous avez le droit d'avoir une opinion en contre.
J'avais dit quoi? Une autre question par rapport.
Oui.
Puisque le rasoir de table est quand même utile pour arriver à un raisonnement, maximiser les effets avec un minimum d'explications.
Oui, oui, absolument. Mais absolument. Je suis d'accord. Tant que ça marche, il faut l'utiliser. Mais sans aller jusqu'au bout de considérer que c'est quelque chose qui est une loi générale. Il y a des fois où transgresser le rasoir d'Occam peut être utile. C'est mon avis. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui.
Je vais juste revenir deux secondes sur ce que vous disiez sur les probabilités et les statistiques. Et je me demandais si vous appliquiez aussi cette façon de voir, par exemple, à la physique, où de nombreux modèles utilisent finalement les probabilités et les statistiques. Je pense en particulier à la croissance cristalline ou ce genre de choses. Et où finalement, on sait que le modèle physique lui-même met un certain nombre de choses sous le tapis. Donc l'utilisation des probabilités et des statistiques permet quand même d'arriver à un certain nombre de résultats tout à fait valable et tout à fait comparable à l'expérimental, et où finalement on se retrouve un petit peu avec ces expériences numériques qui sont permises par ces outils probabilistes et statistiques, entre la physique vraiment théorique et où on est vraiment dans le domaine de l'imagination d'un modèle et l'expérimental. Et ça permet aussi à un moment donné de faire ce lien entre les deux et de faire un va-et-vient via une expérience numérique.
Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites. Lorsque vous travaillez sur des domaines relativement restreints et relativement connus, donc vous avez évoqué des choses que je ne connais pas, hein, la croissance cristalline, je ne connais pas. Mais quand même, à vue de nez, c'est quelque chose qui est assez restreint. Donc on connaît à peu près les causes des choses. Alors là, honnêtement, quelqu'un qui travaille en connaissance des causes, peut savoir si les phénomènes sont indépendants ou non, etc., et manipuler les choses correctement. Je ne suis pas contre. Ce que j'attaquais tout à l'heure, c'était le fait de croire que c'est un instrument magique qui permet d'obtenir des résultats sans avoir des données. Là, vous avez des données. Si vous êtes dans un domaine restreint, relativement connu, etc., oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Monsieur. Ici, il y a un monsieur qui demande.
Moi, je voudrais poser une question qui peut-être vous paraîtra naïve, parce que je n'ai pas de formation scientifique et j'en suis réduit comme nombre de gens à un peu n'en connaître que la vulgarisation, quoi, ouais. Voilà. Et j'étais très intéressé par la formule que vous avez utilisée à un moment, vous êtes passé assez vite, okay, sur la notion de génération spontanée de l'idéalisme platonicien, oui, dans les sciences.
C'est une chose très philosophique.
Parce que... moi j'ai été très frappé par le titre d'une revue comme La Recherche de cet été, qui titrait « La réalité n'existe pas », en s'appuyant sur la physique quantique et sur certains mathématiciens qui disent « il n'y a de réalité que mathématique », voilà, etc. Alors je voudrais savoir, est-ce que dans les recherches par exemple en physique quantique aujourd'hui, il y a des choses qui réellement remettent en question, en particulier l'idée que peut-être que l'observateur modifie la réalité, des qu'on sort des exemples évidemment, mais de physique, quoi, pas. Voilà. Est-ce que vraiment dans les sciences, on retourne à l'époque un petit peu du début du siècle dernier, j'ai en mémoire le livre de Lénine, Matérialisme, Empirio-Criticisme, est-ce qu'on retourne à un débat idéologique de cette ampleur-là aujourd'hui?
Bravo. Vous avez parlé des choses qui m'intéressent énormément. J'ai décelé en vous écoutant trois réponses. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais enfin, ça me donne la possibilité, me donner l'occasion de parler de trois choses qui me semblent intéressantes. Une, alors, quelle est la structure de la génération spontanée de l'idéalisme platonicien? Alors, c'est finalement une chose très simple, très naïve, qui est connue depuis le XVIIIe siècle, et qui a un nom très poétique, c'est la rose de Fontenelle. Alors, la rose de Fontenelle, ça fait allusion à un conte philosophique dans lequel il y avait les roses, elles parlaient entre elles, et il y avait une rose qui prétendait que les jardiniers étaient immortels. Et la raison de l'immortalité des jardiniers, c'était que, des mémoires de rose, on n'avait jamais vu mourir un jardinier. Donc, généralisé, donc ça n'existait pas, la mort des jardiniers, on n'a jamais vu. Pourquoi il y aurait une mort des jardiniers? Les jardiniers sont immortels. Voilà, ça c'est la rose de Fontenelle. Ça s'applique de façon inconsciente dans tous les cas. Hein. Par exemple, si vous me permettez de revenir un instant à la chute des corps. La chute des corps, finalement, les corps, ils tombent comment? Ben, je ne sais rien, hein? ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des corps qui tombent exactement comme disait Galilée? Ben, je ne crois pas que cela existe. Alors, on peut imaginer, je dis bien, on peut imaginer un monde idéal dans lequel il y a une pesanteur qui soit uniforme et constante, dans lequel il n'est pas d'air, il y a un corps, etc., et alors on les lâche, et alors ils tomberaient. Mais qui peut vérifier cela? Déjà, ça n'existe pas, mais au cas où cela existerait, qui peut le vérifier? Non, parce qu'il faudrait mettre un instrument de mesure, mais dès le moment où on met un instrument de mesure, cela disloque les choses, hein? Ce n'est pas comme ça, il y a des règles, il y a des tas de trucs. Bon. Est-ce qu'il y a des mondes idéaux comme ça? Non, mais il y a des scientifiques qui croient qu'on peut construire des mondes idéaux dans lesquels les choses se passent de cette façon-là. C'est ça la génération spontanée de l'idéalisme platonicien. Alors, vous avez évoqué des choses tout à fait intéressantes en ce qui concerne les instruments de mesure. Je l'ai évoqué en passant, finalement, pas sous la même forme, sous une forme différente, parce que j'ai parlé de la chute des feuilles. Lorsque vous avez une feuille, et vous dites, je vais étudier la chute de cette feuille. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Il faut que vous étudiez en même temps, enfin, étudier sur le sens de tenir compte d'une façon ou d'une autre du mouvement de l'air environnant. Les deux choses vont ensemble, les deux sont en interaction. Ça, c'est de la dialectique. Ça a à voir avec Lénine, avec l'empirocriticisme, etc. Ça a à voir avec mon livre, ça a à voir avec des tas de choses. Il y a des tas de phénomènes qui sont absolument incompréhensibles, c'est-à-dire que l'on ne peut pas, en utilisant les règles que j'avais dites, de Jacob et d'autres, on ne peut pas les inclure dans un tissu de causalité. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre comment elles fonctionnent si on les considère toutes seules. Elles sont en interaction avec d'autres, et c'est l'ensemble de ces choses-là qui sont en interaction qui peut éventuellement avoir un sens. C'est le cas de la chute de Feige, c'est le cas de beaucoup d'autres choses. Bon, ça, je crois que c'est un commentaire, c'est pas une réponse, c'est un commentaire à toutes choses que vous avez dites, mais vous en avez dit d'autres. Ah oui, la mécanique quantique, bon, je ne connais pas la mécanique quantique. Pour moi, il y a quand même, si je maintiens des choses très, très, très simples. Par exemple, la dualité onde-corpuscule. Lorsque vous avez une particule élémentaire, on peut la considérer soit comme une onde, soit comme une particule. Qu'est-ce que cela veut dire? Et finalement, cela a fait couler énormément d'encre, parce qu'on s'est demandé si vraiment c'était un corpuscule ou c'était une onde. Pour moi, cela n'a pas de sens. Hein? Une particule élémentaire est une particule élémentaire. Elle se comporte d'une certaine façon. Il y a des phénomènes qui font intervenir des particules élémentaires. Certains de ces phénomènes-là peuvent être mieux décrits toujours de façon approchée, en considérant que c'est un corpuscule ponctuel qui évolue d'une certaine façon. D'autres phénomènes, on les comprend mieux, c'est-à-dire on peut les intégrer mieux dans un tissu de causalité, en considérant que c'est une onde. Mais une particule élémentaire n'est pas un corpuscule, n'est pas une onde. Elle est une particule élémentaire. Et elle cache probablement d'autres modalités, d'autres facettes et d'autres choses. Mais ni l'une ni l'autre, ce sont les comportements qu'elle a qui peuvent être étudiés et compris avec certains outils ou avec certains. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui? Moi, je vais te poser une question. C'est plutôt du statut de la science dans les milieux, bon, dans les milieux journalistiques. Enfin, c'est pas tout à fait. L'aspect showbiz en science. Par exemple, on a annoncé il y a quelque temps qu'il y avait eu des particules qui étaient allées plus vite que la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois cette chose-là?
Bon, ça, c'est périodiquement qu'on annonce. Un peu trop vite en général il faut se méfier des expériences tout à fait spectaculaires qui donnent un démenti à des choses qui sont très bien établies. Bien sûr que la recherche consiste à trouver des choses qui sont en contradiction, qui dépassent des choses très bien établies. Il faut refaire les choses, c'est ce qu'on appelle les surmonter un obstacle épistémologique, c'est changer les paradigmes, certains appellent cela de cette façon-là, etc. C'est une chose qui est normale. Mais en général, il faut se méfier des effets d'annonce. Surtout des gens qui, au lieu de publier dans les revues scientifiques et de se soumettre à la critique des collègues qui essaient de comprendre ce qui se passe, et essaient tout de suite de faire une annonce dans une revue très connue, éventuellement de la presse, ou convoquer des journalistes pour annoncer tout ça. Il faut se méfier tout de suite. Bon, le fait qu'il faille se méfier, ça ne veut pas dire que ce soit faux. Alors, cette histoire-là, bon, c'est là, à ma connaissance, ça a été résolu, donc c'était un problème qui venait. Alors, il y a aussi lieu de se méfier, parce qu'il y avait quelque chose qui se propageait à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, mais c'était minuscule, c'était infime. C'est le temps qui reste.
10 minutes, il te reste.
C'était un temps infime. Et donc, ce n'était pas le double de la vitesse de la lumière ou une fois et demie, c'était quelques centaines de millionèmes de plus. Il faut se méfier parce que cela implique immédiatement les appareils de mesure. Est-ce que c'est exact cela? Et bon, oui, effectivement, si on dépasse la vitesse de la lumière, même très peu, on a transgressé une loi de la relativité, c'est absolument évident, mais il faudrait bien comprendre toutes ces choses-là. Alors, en fait, ce sont les instruments de mesure, c'est une prise en compte légèrement erronée des positionnements des GPS et des choses comme ça, qui a donné une erreur de temps, qui expliquait cette anomalie-là, c'est quelque chose de pas très important. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait une mesure ou une observation, on est présent, La plupart des fois, cela suffit pour modifier les phénomènes. Les instruments de mesure, c'est la même chose. Ils sont en interaction avec la chose elle-même. Donc, c'est tout qui est mis en mouvement en même temps. Alors, lorsqu'il y a ce type de choses-là, en général, il ne faut pas les. À mon avis, la bonne façon de les traiter, ce n'est pas les défendre ou les attaquer. Parce que la vérité scientifique, ce n'est pas une chose un procès qui se gagne ou se perd. Ce n'est pas ça. C'est une compréhension des choses. Hein? Donc, bien sûr, c'est normal que les gens qui ont fait l'expérience, ils croient et la défendent et l'attaquent non plus. Ce qu'il faut, c'est approfondir tous les tenants et tous les aboutissants de la chose. Manifestement, là, il y avait quelque chose à comprendre, je l'ai compris un peu plus tard. Manifestement, l'annonce avait été faite un peu trop vite avant de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Voilà.
Ça veut dire. On prend une autre question, une seule.
Oui.
Allez.
Merci. Oui, j'aimerais revenir sur l'exemple de la recherche sur la bombe atomique. Bon, ça va être très insatisfaisant du point de vue d'une rigueur scientifique, ma question. Mais est-ce que au moment de la recherche proprement dite, de l'élaboration, il y avait déjà la conscience de ce que ça représentait comme exception dans l'ordre des moyens militaires. C'est-à-dire est-ce que connaissant la capacité radioactive, le potentiel de destruction, etc., il y avait déjà en virtualité la projection de ce que ça représentait aussi du coup politiquement, nationalement, etc. Et c'est là où on retrouve où est-ce que après Hiroshima est venue cette conscience, c'est-à-dire est-ce que l'application pratique finalement a déclenché la réalisation de ce que c'était réellement. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
Je ne sais pas si vous êtes clair, mais en tout cas, moi, je n'ai pas les idées claires sur la question. Bon, il est bien évident. Vous savez, à tout moment de l'histoire des sciences...
Excusez-moi, juste, c'est en dehors de toute morale que je pose la question. Hein. C'est purement le processus de la recherche. C'est vraiment ça.
Bon, je ne connais pas l'histoire exacte, qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on pensait. Hein? Mais je crois qu'à tout moment de l'histoire des sciences, il y a eu des choses qui dépassaient ce qui était imaginable et qui ont fait extrêmement peur. Au Moyen-Âge, je ne sais pas si au Moyen-Âge ou avant, je ne sais pas. Il y avait quelqu'un, j'ai des idées nébuleuses, il faudrait que je cherche. Bon, donc j'ai donné une référence historique qui est très imprécise. Il y avait quelqu'un qui avait inventé des systèmes de miroirs pour refléter la lumière du soleil et incendier des navires. Alors lorsque cela a été fait, il y a eu un tollé du côté des philosophes et des moralistes, parce qu'on avait dépassé absolument tout ce qu'on pouvait imaginer en matière de destruction. Hein? Alors c'est un peu ce qui s'est passé là. Je crois qu'il y a une différence quantitative et donc par le passage du quantitatif au qualitatif entre incendier un navire et détruire une ville comme Hiroshima et d'autres, bon, les choses ne sont pas les mêmes. Je crois qu'il y a un peu de tout, hein. Et c'est après Hiroshima qu'on a compris exactement comment fonctionnaient tous les phénomènes de radioactivité, le fait que cela pouvait après l'explosion produire des cancers, etc., ou augmenter la probabilité de l'apparition des cancers et ces choses-là. Et puis, une chose qui a fait très peur aussi, c'est la grande durée de vie de certains matériaux radioactifs. Hein. Donc, vous avez des matériaux radioactifs qui disparaissent en tant que matériaux radioactifs, donc ils sont transformés en autre chose. Très rapidement, quelques mois, quelques ans, quelques années, bon, on fait les nécessaires, on les enterre, etc., et ça disparaît, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui vont durer des centaines, des milliers d'années. Alors là, ça fait très peur. Bon, dans quelques centaines de milliers d'années, si on est là, on sera très différent de ce que nous sommes. Et bon, et il y a toujours eu des catastrophes. Les catastrophes dans l'évolution dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Donc, elles ont détruit à peu près 90% des espèces. Non pas 90% des individus vivants, mais 90% des espèces. Hein? Donc, il est resté, après les grandes extinctions, il est resté que 10%. Alors, bon, on vit, ça a marché quand même, il y en a eu plusieurs, ce n'est pas une qui a presque détruit tout. Donc, bon, là, effectivement, je suis comme vous, monsieur, dans un terrain parfaitement amoral. Mais bon, les sciences ne sont pas morales, elles valent ce qu'elles valent. C'est très intéressant l'histoire des extinctions, parce que les espèces qui sont restées, donc les petits 10% qui restaient, n'étaient pas les plus évoluées. Et on a eu l'évolution subséquente à cela ne consistait pas en une reconstruction de ce qui avait été détruit, mais en des filières complètement nouvelles. Hein? Donc il ne faut pas croire, ça c'est très important pour comprendre le caractère un peu aléatoire de l'évolution. Hein? Ce n'est pas un perfectionnement dans une certaine direction. Hein? La fameuse figure là qui est un peu partout, où il y a un petit singe comme ça qui va à quatre pattes et puis il commence à s'élever là, et puis c'est l'homme, etc. Ça c'est complètement faux. Hein? L'évolution n'est pas quelque chose qui tend à construire l'homme à partir de quoi que ce soit. Hein? Ça c'est le créationnisme, ce sont des choses de ce type-là. Les extinctions ont détruit souvent les organismes les plus évolués. Ils sont restés, à ce moment, s'il y avait une catastrophe vraiment, catastrophe nucléaire, ce qui est dans le domaine du possible, hein, nous disparaîtrions, mais il resterait les blattes, hein, ce ne sont pas les plus évolués, hein, les scorpions, etc., tout cela, il y en aurait. Tout semble indiquer que cela donnerait lieu à d'autres formes de vie très différentes des scorpions et très différentes de nous, mais après. Hein? Donc il n'y a pas de but, de fin dans l'évolution. Ça c'est très 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 important et très, très, très important du point de vue idéologique.
Je crois qu'on peut conclure. Tu peux conclure, vas-y.
Oui, il n'y a pas de conclusion. La science, le propre de la science, c'est qu'elle ne conclut jamais. Il y a toujours des problèmes qui sont ouverts. Je suis extrêmement heureux des questions qui ont été posées. Cela signifie que vous avez des questions. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de vous faire part de mon point de vue. Mais personne n'a raison. On le saura plus tard.
Et moi, je vais remercier Varys Sanchez-Palanciac, qui a rompu ses vacances et qui a abandonné son petit-fils pour venir nous voir et nous parler, et qui repart aussitôt. Voilà.